Radio Prague, les informations.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Prague pour ce bulletin d'informations. En titre aujourd'hui, le maintien ou la levée de l'immunité parlementaire du député Otto Chaluka du parti Affaires Publiques poursuivi pour corruption sera rendu public le 6 juin prochain. Mobilisation à Prague contre le durcissement de l'accès au travail pour les étrangers. Et pour l'année 2012, le fonds cinématographique tchèque est malheureusement quasiment vide. Bonne écoute. Le Conseil parlementaire sur l'immunité des élus de la Chambre basse du Parlement a de nouveau interrompu le débat sur l'affaire Chaluka du parti Affaires Publiques du nom du député poursuivi par la justice pour corruption. Le député a fait savoir ce jeudi au Conseil parlementaire qu'il ne se sentait pas coupable. Avant de se prononcer, le Conseil de la Chambre des députés a demandé à la police la possibilité de consulter d'autres pièces du dossier à charge. Selon le président du Conseil, Bohuslav Sobotka du parti CSSD des sociodémocrates, le Conseil devrait rendre public le 6 juin prochain sa décision de maintenir ou de lever l'immunité parlementaire du député mis en examen. Environ 60 immigrants et des militants d'ONG ont organisé ce jeudi à Prague, dans le centre, une mobilisation de protestation contre la dureté de l'accès à l'emploi pour les étrangers en République tchèque. À partir du mois de juillet, les conditions d'obtention des permis de travail seront plus sévères et leur validité limitée dans le temps. Un diplôme de fin d'études secondaires sera en outre demandé à tout travailleur de pays tiers, c'est-à-dire des pays non communautaires, même dans le cas d'un emploi ne nécessitant pas de qualification particulière. Selon une source du ministère du Travail, les mesures seraient destinées à mieux réguler le marché du travail. La brigade anticriminelle et les douaniers ont saisi ce jeudi près de 400 000 contrefaçons de jouets et de produits pour enfants dans le marché de vente en gros Sapa situé à Prague. La valeur des biens saisis s'élève à près de 33 millions de couronnes, soit près de 1,3 million d'euros. C'est ce que la porte-parole de la direction des douanes, Martina Kankova, a déclaré à l'agence tchèque de presse CTK. La police a ouvert ce jeudi une enquête. Les responsables risquent jusqu'à 8 années d'emprisonnement. La 67e édition du Festival international de musique classique, le Printemps Pragois, démarre ce jeudi 12 mai. Il propose cette année un ensemble de 46 concerts, dont deux concerts dits exceptionnels, ainsi que 6 opéras. L'événement est co-organisé par le Théâtre National et l'Opéra d'État de Prague. Samedi, le festival s'ouvrira traditionnellement avec Ma Vlast, Ma Patrie, l'œuvre symphonique, célèbre du compositeur tchèque Bedřich Smetana, interprétée pour l'occasion par l'Orchestre Philharmonique Tchèque et dirigée par le chef d'orchestre russe Vassili Petrenko. Le Fonds pour le cinéma tchèque dispose pour l'année 2012 d'un budget annuel d'environ 10 millions de couronnes, seulement environ 400 000 euros. Selon la porte-parole du fonds cinématographique Teresa Cesana, le budget destiné au soutien des projets filmographiques s'établissait auparavant entre 200 et 220 millions de couronnes, soit plus de 20 fois le budget de 2012. La situation s'explique notamment par l'application de la loi sur le reversement des recettes publicitaires dans les médias d'État qui alimentait l'année dernière encore une partie du budget public destiné au cinéma tchèque. Les aides publiques actuelles sont considérées comme symboliques par les professionnels du secteur, environ 200 000 couronnes par film, soit 8 000 euros. Selon Teresa Cesana, les travaux des principaux réalisateurs tchèques, parmi lesquels Jan Žebek, Alice Nelis et Vladimír Moravec, particulièrement dépendants des aides du ministère de la Culture, pâtissent déjà de l'absence des deniers de l'État. Pour conclure, quelques mots sur la météo. Demain vendredi, le temps sera ensoleillé sur la majeure partie du territoire tchèque. Les températures en hausse seront comprises entre 27 et 30 degrés pour les maximales. Des orages et de la grêle, attention, sont attendus en début de soirée. Demain vendredi, nous fêterons les Svatava. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. La suite du programme dans un instant avec Václav Richter.
Des événements en République tchèque.
Selon le Premier ministre Petr Nečas, la République tchèque n'adoptera pas l'euro avant 8 à 10 ans.
le dramaturge français Pierre-Yves Chapalin au Festival de théâtre étudiant Zlomvas. Quels sont les thèmes dont nous allons vous entretenir dans la première partie de notre émission? La suite sera réservée à notre rubrique sur les Tchèques célèbres et moins célèbres. Dans son cadre, Magda Hrozinková vous présentera Pavel Fischer, ancien ambassadeur de République tchèque à Paris, qui est actuellement directeur politique au ministère des Affaires étrangères. Merci de rester avec nous et bonne écoute. La République tchèque n'adoptera probablement pas l'euro avant 8 à 10 ans. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre mercredi devant les députés lors d'un débat relatif au Fonds européen de stabilité financière. Petr Nečas entendait ainsi tordre le cou aux craintes selon lesquelles une éventuelle approbation par la République tchèque du traité établissant le mécanisme européen de stabilité, MES, entraînerait pour le pays de nouveaux engagements financiers. Plus de détails avec Guillaume Narguet.
Certes, comme tous les autres nouveaux pays membres, la République tchèque s'est engagée en 2004, au moment de son adhésion à l'Union européenne, à adopter à terme l'euro. Mais depuis, même si l'horizon 2010 avait d'abord été évoqué, aucune date concrète allant dans le sens d'une intégration à la zone euro n'a été fixée. Et les déclarations faites par le Premier ministre mercredi laissent penser que l'apparition de la monnaie unique européenne en République tchèque s'inscrit plus que jamais en pointillé. Le débat qui est ici mené sur les engagements financiers liés à l'adhésion au mécanisme européen de stabilité est un débat qui sera mené par nos successeurs dans 8 à 10 ans, si possible au moment où nous rejoindrons la zone euro, a ainsi expliqué au député Petr Nečas qui, avant cela, avait déjà répété à plusieurs occasions qu'aucune date ne serait fixée avant la fin du mandat de son cabinet en 2014. Le chef du gouvernement a rappelé que la chambre basse du Parlement ne décidait pas de l'adhésion de la République tchèque au mécanisme européen de stabilité, mais devait seulement approuver la création du nouveau dispositif de gestion des crises financières de la zone euro. Le vote sur le mécanisme européen de stabilité doit permettre aux pays de la zone euro de prendre des mesures visant à stabiliser la zone euro, a insisté Petr Nečas. Notre intérêt politique et économique, c'est une zone euro stable, a-t-il ajouté, soulignant qu'un éventuel vote négatif, je cite, mettrait plus qu'un simple bâton, un faisceau de bâtons dans les roues de nos partenaires. Par conséquent, cette éventuelle approbation ne signifierait nullement pour le pays la mise en route de son processus d'intégration à la zone euro. Sur ce point, la position du gouvernement tchèque actuel est d'ailleurs très claire. Attendre de voir comment va évoluer la crise de la dette dans la zone euro avant de prendre une éventuelle décision sur l'adoption de la monnaie européenne. Une position compréhensible et logique selon Oldřich Dědek, coordinateur national pour l'adoption de l'euro.
C'est une position somme toute rationnelle. Si l'on regarde les autres pays qui sont dans une situation similaire à celle de la République tchèque et qui se sont eux aussi engagés à intégrer la zone euro, comme par exemple la Pologne, la Hongrie ou certains des pays baltes, leur position est très proche de la nôtre.
Toutefois, Oldřich Dědek estime que le délai de 8 à 10 ans évoqué par le Premier ministre n'est encore qu'un chiffre en l'air.
Il ne s'agit que d'une estimation, on ne peut rien faire de plus. Actuellement, nous sommes tous sous l'effet direct des problèmes auxquels est confrontée la zone euro avec la crise de la dette. Mais je pense que la situation commence un peu à se stabiliser, même s'il est encore très loin d'être résolu. Dès que la zone euro émettra de nouveau des signaux prouvant que l'euro retrouve le crédit qui était le sien auparavant, les positions des différents pays évolueront également.
Selon un dernier sondage réalisé en avril, 76% des Tchèques sont contre l'adoption de l'euro par leur pays. Un chiffre à prendre des pincettes, bien évidemment, mais qui n'en reste pas moins le plus élevé jamais enregistré en République tchèque. Autant dire que l'éventualité évoquée par leur Premier ministre de ne rejoindre la zone euro que dans une dizaine d'années n'a finalement pas ému grand monde en République tchèque, exception faite des sociétés exportatrices qui, elles, y sont au contraire très favorables.
Jusqu'au 12 mai se déroule à Prague le festival de théâtre étudiant Zlomvas, une expression tchèque signifiant littéralement « casse-toi la nuque » pour exprimer en réalité « bonne chance ». Parmi les invités du festival, le dramaturge français Pierre-Yves Chapalin, dont deux pièces, « Absinthe » et « La lettre » ont été jouées au festival. Anna Kubichtal lui a d'abord demandé de revenir sur la rencontre avec les organisateurs du festival.
C'est-à-dire que, enfin, c'est pas moi qui, au départ, avait prévu d'y participer. C'est une personne qui est metteuse en scène dans l'école là-bas, qui s'appelle Linda. Il y a plus d'un an, je l'avais rencontrée à Paris. Elle avait découvert un texte que j'avais écrit, et puis elle m'avait demandé si elle pouvait le traduire en tchèque pour le jouer ici au festival étudiant de son université. Et donc, évidemment, je lui ai dit qu'elle pouvait évidemment faire ce qu'elle voulait. Donc, elle a décidé de mettre en scène un texte que j'avais écrit qui s'appelle « Absinthe ».
Cette pièce qui donc a été présentée le 8 mai ici à Prague, oui, à la Damu. Oui. Est-ce que vous pourriez justement présenter un peu cette pièce et parler un petit peu justement de la mise en scène faite par cette jeune femme, Linda?
Donc elle a choisi, Linda, d'explorer, enfin, dans un souci alternatif, on peut dire, underground, voilà, elle a choisi un texte que j'ai écrit, Absinthe, donc. C'est une pièce, moi, qui n'est pas complètement finie d'être écrite, que j'ai pas complètement fini d'écrire. C'est un peu une matière brute, comme ça, qui est finie, si on veut, mais qui laisse beaucoup de possibilités par rapport à la mise en scène. Et c'est ça qui l'intéressait, elle, Linda. Elle, en tout cas, elle était séduite par la langue, et puis par donc l'écriture. Et voilà, et ça lui parlait. Ça, ce qui ne m'étonne pas, parce que c'est à peu près l'héroïne, c'est aussi, qui s'appelle Absinthe, c'est un peu une fille de son âge aussi. Qui a, bon, c'est une histoire aussi, en gros, familiale, avec des choses qui ne sont pas sues, avec comme si... elle avait grandi dans un milieu qui est complètement faux, où tout est faux autour d'elle, mais enfin, on ne lui a jamais dit ça, mais c'est elle qui le sent, et effectivement, elle va découvrir qu'il y a des tas de choses qui sont complètement fausses autour d'elle.
Où puisez-vous un petit peu les thèmes de vos pièces? Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que vous inspirez de votre quotidien? Est-ce que vous vous inspirez éventuellement, je ne sais pas, de mythes, hein, puisque le théâtre reprend souvent des mythes éternels et les retravaille de manière contemporaine?
Oui, en tout cas, bon, forcément, je m'appuie sur des choses que je connais, en tout cas au niveau des sensations. Et ensuite, effectivement, enfin, moi j'aime bien travailler sur aussi des sous-couches qui sont très anciennes et qui peuvent s'apparenter à de la mythologie. Enfin, ça peut être un casse-gueule, mais faut un peu s'en détacher. C'est pas pour transposer ça, mais c'est un petit peu pour se nourrir d'une énergie comme ça très profondément enfouie en chacun de nous. C'est pas forcément qu'un héritage. Évidemment, il y a cette notion d'héritage, mais c'est pas quelque chose qui est fermé. C'est un peu pour réouvrir une vision de ces sous-couches qui existent toujours en nous, enfin, d'ordre archaïque.
Que cherchez-vous à dire dans vos pièces? Quels sont justement les questionnements que vous essayez peut-être, ou de résoudre, en tout cas de poser, en écrivant vos pièces?
Je sais que, voilà, je me suis beaucoup intéressé par le passé, toujours d'ailleurs, par cette cruauté, par la cruauté en chacun. Donc, enfin, c'est un peu... C'est pas une nouveauté, mais... Voilà, en tout cas, j'essaye pas d'être moral, donc, dans les pièces. J'essaye pas de dire comment faut faire, comment faut penser, ou... Parce que ça, je serais incapable de le savoir moi-même, donc... Mais en tout cas... J'essaie de trouver des évidences quand j'écris, que ce soit évident, mais je n'ai pas une position de jugement, en tout cas précise. Mais ce que j'essaie de dire, oui, c'est aussi de parler de ce côté brut qui est en nous et que la culture a du mal à domestiquer ou en tout cas à absorber. Parce que sinon, si la culture suffisait, ce serait les pays les plus développés qui seraient forcément au comportement le plus exemplaire, mais c'est pas le cas. Donc de toute façon, voilà, je travaille un peu sur cette contradiction, quoi, pour dire une chose, mais en fait, quand j'écris après, je suis aussi plongé dans d'autres choses que je découvre au fur et à mesure, quoi.
C'était donc le dramaturge Pierre-Yves Chapalin au micro d'Anna Kubista. Vous êtes toujours sur Radio Prague, émission en langue française. Pavel Fischer, 46 ans, est directeur politique au ministère des Affaires étrangères. Pendant 8 ans, de 1995 à 2003, il a travaillé aux côtés de Václav Havel, d'abord comme chargé de communication, puis comme conseiller politique du président, avant d'être nommé ambassadeur tchèque en France, fonction qu'il a exercée jusqu'en 2010. Dans la première partie de l'entretien qu'il a accordé à Magda Hrozinkova, Pavel Fischer se souvient des débuts de sa carrière ainsi que de l'ambiance qui régnait alors au château de Prague autour de l'ancien président.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres.
Pavel Fischer, bonjour. Vous êtes né à Prague en 1965. Est-ce que votre famille a été proche de la France, attachée à la France?
Pour ce qui est notre famille et sa francophonie, il y avait des éléments. À la maison, on parlait tchèque, mais lors des déjeuners de dimanche, avec mes grands-parents, on parlait le latin. Disait des blagues en allemand, et ma grand-mère, qui était très francophile, aimait beaucoup de dire quelques mots en français. Donc il y avait le français présent, et lorsque j'étais comme enfant avec mon père, qui travaillait dans la physique nucléaire à CERN, ce centre de recherche à la frontière suisse et française, j'étais là comme élève et j'ai pu être scolarisé dans une école de campagne en France. Et donc, ce souvenir gravé dans la mémoire d'un petit écolier qui essayait d'attraper ses pères français, ce souvenir est resté gravé très fort quelque part dans mes souvenirs. Et donc, ça a toujours facilité cette ouverture vers la France et vers tout ce qui est français.
En 1990, vous avez terminé vos études à la faculté des lettres de l'Université Charles à Prague, des études consacrées, si je ne me trompe pas, aux langues romanes. Mais avant d'entrer à l'université, vous avez travaillé pendant un an comme ouvrier dans la recherche géophysique. Pour quelles raisons? C'était donc lié au métier de votre père?
C'était l'époque où être admis à l'école secondaire nécessitait être de bonne famille ou bien de bonne, comment dire, de bonne origine. Et je parle plutôt des origines en termes idéologiques ou partisans ou politiques proprement dit. Et lorsque je terminais mes études au lycée, je n'étais pas admis à l'université aux sciences naturelles. J'ai souhaité faire la géologie ou hydrologie en particulier. Et ce résultat, je n'ai jamais élucidé pourquoi, mais une partie, je crois, était non seulement mon ignorance ou mes faibles connaissances en maths ou en physique, mais aussi le peu de points que j'avais sur le score, je dirais, d'engagement politique proprement dit. Et je me suis décidé d'aller travailler dans le métier que je souhaitais étudier, dans une position d'ouvrier, donc de quelqu'un qui aide les chercheurs à réaliser leur travail. J'ai pu toucher vraiment au métier de géologie ou de géophysique proprement dit. Et c'était aussi le moment où j'ai décidé de ne plus continuer cette ambition en sciences naturelles et de bifurquer vers les études de français, de langue et de civilisation française. Et finalement, j'ai réussi à la fac lors des admissions une année plus tard. Ce qui peut-être a été aussi facilité par le fait que je me présentais comme ouvrier, et comme vous savez bien, les ouvriers avaient une voix plus facile aux études que des enfants des familles dites d'intelligentsia.
Après la révolution de velours, avant de travailler pendant 8 ans aux côtés de Václav Havel dans l'office du président de la République, vous avez entre autres enseigné le français au lycée franco-tchèque Jan Neruda à Prague. Vous avez été aussi secrétaire personnel de l'évêque František Lobkowicz ou directeur adjoint à l'Institut de communication. À cette époque-là, vous avez déjà souhaité vous engager dans le monde de la politique et de la diplomatie.
Vous avez oublié de mentionner une année qui a été pour moi très importante. Après la chute du mur de Berlin, j'étais invité dans une petite structure en Suisse qui était focalisée sur les études de l'enseignement social de l'Église. Et cette année d'études et d'approfondissement des sujets de société, de politique, d'économie, m'a beaucoup, d'histoire, de civilisation chrétienne, m'a beaucoup ouvert des yeux. Je me suis rendu compte que le monde les soucis du monde ne s'épuisaient pas par le simple combat contre les communistes, excusez-moi de l'expression, mais c'était comme ça comme nous vivions sous la chape de plomb idéologique qui nous a été imposé sous le régime totalitaire, mais que le monde était beaucoup plus complexe, que les questions de pauvreté accompagnaient l'humanité depuis des lustres, que des questions de justice sociale, d'attention aux autres, de richesse et de partage étaient des questions peut-être qui échappaient au discours parlementaire, mais qui n'échappaient pas à la réflexion sur la place des hommes et d'une société créée, existante dans un pays concret. Et c'est là où j'ai vu que être utile, être sensible à ces interrogations-là devenait quelque chose de très important pour une société, et je souhaitais rester engagé et à l'écoute de cette approche-là. Et la suite, vous l'aviez mentionné, j'ai travaillé dans l'Église, mais aussi j'étais toujours attiré par les questions publiques, et donc l'invitation de venir travailler dans l'équipe de Václav Havel en 95 a été quelque chose de naturel dans cette perspective-là.
Vous avez travaillé à ses côtés pendant 8 ans, à partir de 1995 jusqu'à la fin de sa présidence en 2003, d'abord comme chargé de communication, ensuite comme porte-parole adjoint et enfin comme responsable du département politique. Et les gens ont peut-être encore cette vision un peu idéaliste de l'ambiance qui régnait au château de Prague. La gymnaste et ancienne collaboratrice de Václav Havel, Věra Čáslavská, a récemment évoqué à la télévision que cette image de Václav Havel qui se promène en trottinette dans les couloirs du château un peu fausse, parce que le travail était très dur après la révolution, dans les premières années post-révolutionnaires. Vous êtes arrivé au château 5 ans plus tard. Quelle était alors l'ambiance à cette époque-là au château de Prague?
Le château était toujours un centre de pouvoir important, sur le plan spirituel, comme aimait le rappeler Václav Havel lui-même, c'est-à-dire cette présence du site des rois des pays de Bohême, mais aussi cette présence de la cathédrale, site donc du pouvoir spirituel, c'était quelque chose qui apportait au château lui-même une certaine autorité. Donc c'est le site lui-même. Václav Havel, homme affable, homme plutôt discret, timide, mais dès que la question méritait l'attention, dès que il fallait s'engager et dire un mot qui tranche, Dès qu'il y avait un sujet qui dépassait l'ordinaire, là, il devenait intransigeant. Et c'était quelque chose de très remarquable, de voir un homme qui préférait souvent écouter que de parler, qui préférait plutôt de lire et d'écrire que de se produire sur la scène comme un acteur. Dès qu'il y avait un sujet d'importance, là, il devenait vraiment autorité certaine. Et c'était quelque chose de formidable de vivre de près. Deuxième aspect que j'ai remarqué très tôt, c'est que cette ambiance autour de lui a été une ambiance très ouverte. Un débat dans lequel il y avait relativement peu de tabous. Donc, intellectuellement parlant, c'était un défi que de réussir à faire valoir des points qu'on voyait importants. Et troisième point, Václav Havel lui-même ne stressait pas ses subordonnés. Ses collaborateurs, il nous disait souvent « mes collaborateurs », étaient souvent invités peu avant une conférence, un événement, une visite ou quoi que ce soit. Et les gens qui préparaient les dossiers étaient invités à lui expliquer le sujet en 3 minutes. Et il ne stressait pas les gens. Les gens étaient peut-être intimidés, mais il aimait bien de rencontrer la personne qui est derrière ces papiers-là. Et c'était pour moi très intéressant de voir comment il valorisait les gens et comment il valorisait leur savoir-faire. C'était une très belle leçon, comment, même si on est très important, même si on a beaucoup d'occupations, même si on a très peu de temps, on peut finalement manifester à l'égard des gens autour de lui, de soi-même, une certaine disponibilité de l'esprit. Et de la pensée, et là, Václav Havel est un vrai champion.
Dans une de nos prochaines émissions, le diplomate Pavel Fischer évoquera un des moments les plus importants et les plus touchants qu'il a vécu avec Václav Havel, ainsi que sa mission d'ambassadeur en France. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission. Merci de votre attention et de votre fidélité à Radio Prague. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur www.radio.16z/fr. Et voici la partie musicale de notre émission. Nous aimerions vous présenter le groupe Kvieti, les fleurs, ensemble fondé en 2000 par l'instrumentiste et chanteur Martin Kuchperski. Bonne écoute.
Poslední tančina v Praze, anebo spíš na světě. Podlech jsem zoufalý touze, spatřit tě repete. Dostal jsem to strašný přání, že s tebou si zas zadrsám. Ale náhle je nad slunce jasný, že ten nápad jsem neměl sám. A teď to začne solo promile, pohledy lačné a v krvi promile. Teď to začne solo promile, pohledy lačné a v krvi promile. A teď to začne solo promile, pohledy lačné a v krvi promile. A teď to začne solo promile, pohledy lačné a v krvi promile. Tančina v Praze, na noži zpívá res. Cedule na podlaze hlásá pozor zlý ples.
teď to začne promilovat mě a v krvi 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 promilovat mě
přítelkyně, je kotička na klíně, pohladíš ji přede, tralala abcd. A vidím, že máš hlad mlíčko, sochary snad, a spát můžeš pak v kožíšku černém jako mák.
Jestli máš doma kočičku, tak se jí věnuj. Za žádné jiné zvíře jí nevyměňuj. Jestli máš doma kočičku, tak se jí věnuj. Za žádné jiné zvíře jí nevyměňuj.
Mám tě tak rád, že ani nemůžu spát, a jinak ani nelze befeleme při psí hnězde.
Jestli máš doma kočičku, tak si ji věnuj. Za žádné jiné zvíře jí nevyměňuj. Jestli máš doma kočičku, tak si ji
staví ani chvíli. sebe opření, zdá se jim o jaguáry, že na nich sedí, po srsti hladí a naproti větru, co mají v zádej. Jsou hrozně pomalí, až leží, oči vlají.
Oči vlají,
oči vlají.